Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, une émission qui passe tous les jours de la semaine, que vous pouvez écouter tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible entre autres sur franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, avec ce matin à la prise de son, Pierrick Charles. Faire entendre des grands textes de la littérature sur une scène rock avec de la musique, c'est le pari d'un collectif qui regroupe des gens venus du théâtre, de la musique et de la littérature. Mes deux invités ce matin sont Lolila Siour et Samir Bouadi, qui appartiennent à ce collectif qui a pour joli nom les Liseuses.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Lolila Siour, bonjour Samir Bouadi.
Merci.
On peut vous appeler les Liseuses?
Oui, oui. Moi j'aime bien ça, c'est bien.
Ben pour vous Samir
Bouadi? Oui, ben c'est bien, avec une voix comme la mienne, c'est bien de se rappeler à une forme de, on va dire, de délicatesse.
Les Liseuses, c'est le nom donc de ce groupe. Vous avez d'abord sorti un disque avant de vous lancer dans des spectacles mêlant capsules littéraires et musique, alors musique pop, musique urbaine ou musique jazz. Alors c'est un choix éclectique pour renouveler l'exercice des lectures musicales. Alors comment vous est venue d'abord cette idée, c'est-à-dire reprendre des textes de la littérature sur scène?
Alors la belle initiative nous vient de d'Audrey Siour et de Ali Mesbahi, qui tous les deux, lui Ali vient de la musique et
il était producteur, bien sûr,
producteur, et Audrey vient de la littérature.
Elle était éditrice.
Et donc le mariage évident entre la musicalité des mots et la musique tout court. Écoutez, ça s'est posé tout à fait naturellement, et finalement ils nous ont proposé au tout départ de les rejoindre dans ce collectif quasiment improvisé autour de lectures improbables.
Ils vous ont proposé à vous comédiens, vous voulez dire?
C'est venu très naturellement, avec un casting dingue, avec des gens vraiment inattendus. Je pense à Laurent Delahousse par exemple, à Augustin Trapenard, mais aussi enfin plein de gens différents, d'horizons différents, et on s'est retrouvés sur scène de manière très timide à dire des textes et à être entouré de musiciens dans une atmosphère assez feutrée comme ça. Moi je suis pas habitué au collectif en général, mais là c'était très très enrichissant, très agréable, et finalement oui, quoi de plus beau que de faire entendre des textes, d'en découvrir et puis d'être porté par des musiciens de talent. Voilà, c'était très très chouette tout ça.
Lolila Siour, comment êtes-vous arrivée dans cette belle aventure? Comment êtes-vous devenue une liseuse?
Eh ben écoutez, j'ai suivi le projet dès le début, et puis j'ai toujours accompagné ce projet.
Vous êtes comédienne à la base?
Je suis comédienne, et donc quand on m'a proposé de participer avec une équipe comme ça, voilà.
Alors vous avez donné quelques représentations, ça a plutôt bien marché, puisque maintenant vous êtes résident dans un lieu dans le 11e arrondissement à Paris, La Flèche. Et où vous jouez tous les 3e jeudis du mois.
C'est ça.
Il y a du monde. Alors ce qui a changé entre l'année dernière où vous sortez le disque avec quelques voix célèbres, hein, par exemple Augustin Trapenard vous a donné un sacré coup de main en venant lui-même lire un extrait d'un roman. Qu'est-ce qu'il a lu, lui, Augustin Trapenard? Les secrets.
Je ne sais plus. Ah oui, mais il était formidable, entre parenthèses, sans aucune flagornerie. Il a été incroyable. Il incarne réellement ce texte-là formidablement bien.
Il faut donc incarner le texte.
Mais oui, c'est ça toute la difficulté, réellement.
Mais alors, qui choisit les textes? Parce qu'il y a un mélange de classiques. On peut tomber sur un texte de Milan Kundera, que vous lisez d'ailleurs, Lolila Siour, et
L'immortalité.
L'immortalité. Et vous, Samir Bouadi, vous lisez plutôt un extrait d'un livre sur les boxeurs publié il y a quelques années par le journaliste de Libération.
Lionel Froissart,
sur les boxeurs.
Ouais, c'est
je l'avais d'ailleurs reçu pour ce beau livre.
Moi, je ne l'avais pas lu, je l'ai découvert, une sorte d'introspection dans la tête de Mike Tyson, avec, encore une fois, le mot est un peu galvaudé aujourd'hui, mais une forme de tendresse. Et finalement, il a réussi à se mettre dans la tête de Mike Tyson. Et elle va l'interpréter, d'ailleurs, notre amie Lolila, parce que je trouve que c'est très intéressant que aussi une voix douce, une voix féminine dise ce texte-là, parce qu'on se rend compte de l'infinie capacité de la littérature à entrer dans la tête des gens, y compris existants. Et cet exercice-là, je le trouve absolument incroyable et d'une poésie, pour le coup, évidente.
Qui choisit les textes?
On est maté, hein.
Alors, certains textes étaient déjà...
On est maté par Audrey Sioux.
Certains textes étaient déjà sur l'album. Mm-hmm. Et on a eu la chance de pouvoir les reprendre. Et avec Samuel Écart, donc, on a choisi d'autres textes ensemble. Et
l'idée, c'est quoi? C'est de passer du classique à des gens très connus, mais aussi ne pas vous interdire à lire des extraits de livres contemporains.
Oui, c'est ça. Enfin, c'était la volonté première, c'était de choisir des extraits qui nous plaisaient, de partager des œuvres qu'on affectionnait. Et de donner envie aux gens de
ouais.
S'ils sont intrigués par ces brefs extraits, de poursuivre et d'aller chercher le livre pour continuer la lecture.
Et c'est une lecture musicale. Alors, ce qui est nouveau, c'est que depuis que vous vous produisez sur scène, c'est que les musiques qui accompagnent ces textes, ce sont des musiques originales.
Oui, composées par Samuel Écart. On a composé ensemble et en accord avec les textes. Certaines musiques ont été composées avant de choisir les textes et puis d'autres, on avait déjà les textes et on a composé
donc
ensuite.
C'est pas le texte qui vous inspire la musique?
Ça dépend. C'était différent pour chaque texte.
Par exemple, pour vous, pour le texte que vous lisez
Alors, je ne sais plus du tout sur qui j'étais, moi, pour être très franc avec vous, mais je sais qu'on a travaillé avec, bien sûr, Samuel. Mais il y a aussi un musicien formidable qui s'appelle Jean-Baptiste Andrea, avec qui on a bossé. Je crois, tu peux me contredire si je dis
Jean-Michel Mathieu.
Jean-Michel Mathieu, pardon. mille excuses. Notamment sur le Gargantua. Parce que l'aventure continue, si je peux me permettre, Toufik, de prolonger juste la discussion. L'aventure continue dans d'autres directions, avec, par exemple, la bande-son de certains romans, et aussi, et surtout, la création immédiate et la relecture de textes connus tels Gargantua qu'on vient de sortir récemment. Et c'est très intéressant parce que la musique est carrément construite, fabriquée, pensée, amenée en même temps et en direct. Et moi, je me suis retrouvé à enregistrer des voix avec le musicien à côté de moi. Donc il y a vraiment cette espèce, on va dire, vous parlez tout à l'heure de ping-pong, il y a une sorte de ping-pong entre des arts, des choses, des voix, des gens, des couleurs.
Donc vous allez adapter pour la scène des lectures de l'Odyssée de Homère, mais aussi Hugo, le dernier jour d'un condamné, Honoré de Balzac, Alain Fournier, Molière, Flaubert, alors même les mille et une nuits, alors tout ça c'est dans le classique, mais là on va vous retrouver, Samir Bouadi, dans un extrait consacré au boxeur, écrit par Lionel Froissart.
Round 12. Les lâches et les héros ont peur. Cher Cuisse, c'est la première fois que j'écris. La dernière aussi. C'est pour toi que je le fais. Il y a des années que je voulais prendre un stylo pour autre chose que signer un contrat ou griffonner un autographe. Je voulais connaître la sensation que ça procure d'aligner des lettres, les unes après les autres, jusqu'à former une phrase et que celle-ci concrétise elle-même une idée. Il m'a d'abord fallu apprendre à maîtriser les mots, comprendre leur sens profond, peser le sens de leur signification et de leur portée. J'avais besoin de temps aussi. Souvent, il m'a dépassé, étouffé, tu sais, Cus. La prison m'a aidé. J'ai eu tout le loisir d'y apprendre à lire et à écrire, la plupart du temps, de belles conneries. Tu n'as jamais sérieusement pensé que j'échapperais à la prison, n'est-ce pas? Tu me croyais plus fort que ça? Alors j'imagine que tout cela doit t'attrister. Tu comprendras sans doute, après avoir lu cette lettre, pourquoi je vais probablement y finir mes jours. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions à ce sujet. C'est pas très grave. Je suis un prisonnier de la vie. Je m'ai oublié ce jour de novembre lorsque tu m'as laissé seul. Depuis, je n'ai jamais cessé de l'être.
C'est un extrait de l'album des Liseuses, lecture musicale. On vient d'écouter donc cet extrait consacré au boxeur, signé par Lionel Froissart et lu par vous-même, Samir Bouadi, vous qui faites partie des Liseuses.
Oui, en réécoutant Toufik, si je peux me permettre, c'est toujours très compliqué de sortir un morceau de son ensemble, parce que là c'est très très joué dans la lecture, la musique est volontairement western, et il y a aussi cette finesse de mise en perspective de la lecture qui est intéressante pour l'écoute, c'est-à-dire qu'en réécoutant là, je me rends compte que ce côté un peu surjoué raconte quelque chose, une vision idéalisée du boxeur aussi, et vraiment il y a quelque chose d'éminemment intelligent et sensible dans le travail d'Audrey Siour et d'Ali Mesbahi, parce que cette réécoute-là, elle est très gênante pour moi qui ne supporte pas de m'entendre, mais je comprends pourquoi j'ai été dirigé et indiqué comme ça.
Comment on vous a dirigé?
C'est-à-dire que le travail avec Ali et Audrey est assez spontané et instinctif, mais la volonté, par exemple, de créer ce personnage-là, de carrément le surjouer ou de souligner en rouge des choses, fait entendre la fragilité du personnage. Et en fait, la direction, elle est très juste, parce que, comme dirait Laurent Terzieff, elle est infime. C'est-à-dire que la direction, c'est un regard, c'est de la confiance. Et une idée directrice. Et ils tiennent leur truc très très bien.
Mais alors, qui choisit les musiques ou comment on compose une musique à partir d'un texte? Parce que ce texte que vous interprétez, chacun a sa propre idée, chacun a sa propre musique du texte lu. Lila Siour.
Oui, moi, en enregistrement pour travailler sur Kundera, j'avais d'abord entendu du rap. Et on avait essayé d'enregistrer sur une instru de rap. Et ensuite...
A priori, il n'y a aucun lien entre le monde du rap et l'œuvre de Milan Kundera.
Mais c'est quand même un texte très très actuel.
C'est pour l'actualiser que vous avez mis cette musique. Quel genre de débat vous avez? Quel genre de questionnement vous avez entre le metteur en scène, les comédiens, mais surtout les compositeurs de musique?
En ce qui concerne l'album, c'était l'alchimie entre la musique et le texte. Ce était vraiment du côté de Jean-Michel Mathieu et Ali Mesbahi et Audrey Siour. Quand j'enregistrais, je savais pas encore que j'allais être sur une musique de molécules, etc. Mais enfin, on a enregistré avec certaines choses qui ensuite ont changé. On a refait des enregistrements quand la musique a été confirmée, et voilà.
Et depuis que vous produisez sur scène, vous avez un nouveau compositeur de musique. Comment ça se passe?
Le projet de l'album était avec 12 voix et avec des musiciens qui chacun, enfin,
ramener son univers.
Et là, il y a eu une volonté de travailler donc à deux sur ces textes. Il y avait des nouveaux textes et on a voulu garder une cohérence pour chaque morceau. Et c'est principalement de l'électro. Il y a c'est de l'électro, de la musique en live. Et on a travaillé ensemble.
Et donc
nous avons travaillé avec Samuel Ecker.
Qui est donc un jeune compositeur de musique et qui devient une liseuse lui aussi puisqu'il a rejoint le collectif.
Ouais, et il le rejoint vachement bien parce qu'au-delà du fait d'avoir déjà préparé des choses et proposé des choses, moi je récupère un travail qui a déjà été proposé pour le remettre en bouche et le remettre en scène pour ainsi dire, ou en tout cas en espace. Et Samuel a la capacité de s'adapter aussi. C'est aussi la magie de cette proposition-là, c'est que rien n'est figé. C'est-à-dire que comme c'est du live et que ce musicien-là a envie d'avancer dans ça, on a besoin de lui, il y a une réponse entre ce que fait notre ami Lolila sur scène et lui. Et cette magie, ce ping-pong, cette entente, cette écoute, ces échos mutuels partagés, ça fonctionne très très bien. Et
alors justement, un autre extrait qu'on peut retrouver dans l'album des liseuses, cette fois-ci on va vous retrouver vous, Lolila Siour, donc lisant un extrait d'un roman de Milan Kundera, qu'on va tout de suite reconnaître, Assise au salon, c'est le titre du morceau.
Assise au salon dans un fauteuil, Agnès attendait Paul. Devant eux, il y avait la perspective d'un laborieux dîner en ville. N'ayant rien mangé de la journée, elle se sentait un peu faible et s'accordait un moment de détente en feuilletant un épais magazine. Trop fatiguée pour lire les articles, elle se contentait de regarder les photos, nombreuses et en couleur. Dans les pages centrales, un grand reportage était consacré à une catastrophe, survenue au cours d'un meeting d'aviation. Un appareil en flammes était tombé dans la foule des spectateurs. Les photos étaient immenses, chacune occupant une double page. On voyait des gens terrorisés courir en tous sens, les vêtements brûlés, la peau grillée, le corps entouré de flammèches. Agnès ne pouvait en détacher son regard et songer à la joie frénétique du photographe qui avait vu soudain, alors qu'il s'embêtait à un spectacle soporifique, le bonheur lui tombait du ciel sous la forme d'un avion en feu. Tournant la page, elle vit des gens nus sur une plage et un gros titre. Des photos de vacances qu'on ne verra pas dans l'album de Buckingham, suivi d'un court texte qui s'achevait par cette phrase. Et un photographe était là. Les fréquentations de la princesse défrayent à nouveau la chronique. Un photographe était là.
Partout, il y a un photographe. Un photographe caché derrière un buisson. Un photographe déguisé en mendiant boiteux. Partout, il y a un œil. Partout, il y a un objectif. Agnès se souvint que jadis, dans son enfance, elle était fascinée par l'idée que Dieu la voyait. Elle la voyait sans trêve. C'est alors sans doute qu'elle avait ressenti pour la première fois cette volupté, cette étrange délice que les humains éprouvent à être vus. Vus à leur corps défendant. Vus dans les moments d'intimité. Vus et violés par la vue. Sa mère, qui était croyante, lui disait « Dieu te voit », en espérant lui faire perdre l'habitude de mentir et de se ronger les ongles, de se fourrer les doigts dans le nez. Mais il se produisait tout le contraire. C'est précisément lorsqu'elle s'adonnait à ses mauvaises habitudes, ou dans ses moments de honte, qu'Agnès imaginait Dieu et lui montrait ce qu'elle faisait. Elle pensa à la sœur de la reine d'Angleterre et se dit qu'à présent, l'œil de Dieu était remplacé par l'appareil photo. L'œil d'un seul était remplacé par les yeux de tous. La vie s'était transformée en une seule et vaste partouze à laquelle tout le monde participe. Tout le monde peut voir sur une plage tropicale la princesse d'Angleterre fêter nu son anniversaire. Apparemment, l'appareil photographique ne s'intéresse qu'aux gens célèbres. Mais il suffit qu'un avion s'écrase près de vous, que des flammes s'élèvent de votre chemise pour que vous aussi soyez célèbre et inclus dans la partouze générale, qui n'a rien à voir avec la jouissance, mais annonce solennellement que personne ne peut plus se cacher nulle part et que chacun est à la merci de tous.
Une lecture musicale de Lolila Siour, extrait de quel roman de Milan Kundera ?
L'immortalité.
Bah voilà. Alors ça, par exemple, quand vous découvrez ce texte, vous l'interprétez à votre manière. Est-ce que quand la musique arrive, puisque il y a un compositeur de musique avec vous, vous lisez ces textes sur scène accompagnés de musiciens, est-ce qu'il a changé un peu votre manière de lire ce texte, d'interpréter ce texte, et là en l'occurrence de camper un personnage d'un roman?
Je pense que la musique donne une couleur et nous permet de... Enfin, c'est quelque chose d'inconscient, mais évidemment notre voix suit, je pense, est très influencée par ce qu'on entend. Et
le public, il sait que vous lisez un extrait de Milan Kundera, de l'immortalité de Milan Kundera.
Oui, oui, oui. C'est à chaque fois, c'était avant. Enfin, on veut que les gens sachent ce qu'on est en train de dire pour qu'ils puissent, eux, après, s'ils ont envie, s'ils ont retenu quelque chose, une phrase, un mot, y replonger, s'y replonger.
Ils viennent pour la musique ou ils viennent pour votre bibliothèque idéale? C'est quel public?
C'est une bonne question. On a eu un public très varié, il y avait des jeunes et des moins jeunes, et voilà.
Et puis cette histoire, donc cette manière de reprendre les lectures musicales, de renouveler l'exercice, cette belle aventure des liseuses, a commencé avec une série de photos de femmes lisant dans le métro. Expliquez-nous ça, Samir Bouadi.
Mais en fait, au tout départ, c'est ça. Au tout départ, c'est de l'image et sont des photographies de femmes dans le métro, donc comme vous venez de le dire, qui sont photographiées comme ça, dans cet état de grâce qui consiste à laisser passer le temps et à se laisser porter par une lecture. Et finalement, je crois que c'est Audrey qui a vraiment pensé la chose et qui s'est dit « Tiens, il y a un truc avec le temps, le métro, le passage, la manière d'occuper ce temps neutre qui sont les transports. »
Et de s'extraire du métro.
Et de s'extraire du métro. Aujourd'hui, c'est plutôt les téléphones portables, tout ça, mais espèce de temps idéal, récupéré, happé, redistribué, qu'on s'offre à nouveau d'échapper au temps, à ce temps neutre. Et par extension, Audrey Siour a eu un petit bug là-dedans, dans sa tête, et se dit, tiens, on va y mettre des voix, on va y mettre des gens, et on va y mettre, voilà. C'est parti vraiment de ça. Je trouve ça vachement bien parce que, effectivement, dans le travail de mise en scène qu'on essaye de faire tous les trois, avec Samuel Ecker, pour pas se tromper sur le nom.
Parce que vous êtes par ailleurs metteur en scène des spectacles des liseuses.
J'ai le bonheur d'être un regard extérieur sur leur travail. Il y a cette notion de temps qui passe, etc. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que, j'imagine que c'est le cas pour vous aussi et pour tous les gens qui nous écoutent, le temps de la lecture, le temps que l'on donne à la lecture ou à l'écoute des mots, n'est pas le même temps du visionnage du téléphone portable, est un autre temps, un temps tout à fait différent. Et quand un roman nous happe ou quand une poésie nous appelle, on est enlevé de ce temps-là. Alors que le téléphone portable, sur lequel on passe de très très nombreuses minutes par jour, il faut le rappeler, c'est quand même une sorte d'abîme qui nous regarde, pour citer Nietzsche, c'est un autre temps. Et voilà, donc par extension, c'est devenu ces moments de grâce, de lecture, pas toujours d'ailleurs...
Vous avez le choix des textes ou ça reste...
Là, ils m'ont imposé pour le coup. Moi, je ne fais que suivre.
Ouais. Ce sont des textes qu'on a choisis là pour ce qui se joue à la Flèche.
C'est tous les troisièmes jeudis du mois.
Tous les troisièmes jeudis du mois. Ce sont des textes qu'on a choisis avec Samuel. Et voilà, en travaillant, il y en a qu'on a repris, qui étaient déjà dans l'album et dans des spectacles qui s'étaient joués à la Reine Blanche et à la Maison de la Poésie avec beaucoup d'autres intervenants, comme Augustin Trapenard, Laurent Delahousse, etc. Et voilà.
Et quand je vous ai demandé si vous pouviez lire un extrait d'un roman que je choisirais moi-même, et bien sûr j'ai choisi le dernier roman de Patrick Modiano, une manière à moi de réitérer mon invitation. Patrick Modiano, si vous êtes matinal, si vous écoutez France Culture, bien sûr vous venez quand vous voulez. Ce roman tant attendu, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas encore.
Non point.
Bon, mais vous allez lire quand même la première page.
Avec plaisir.
Par les deux liseuses donc, Samir Bouadi et le lilas sur.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Il y a des blancs dans cette vie. Des blancs que l'on devine si l'on ouvre le dossier. Une simple fiche dans une chemise à la couleur bleu ciel qui a pâli avec le temps. Presque blanc, lui aussi, cet ancien bleu ciel. Et le mot « dossier » est écrit au milieu de la chemise, à l'encre noire.
C'est le seul vestige qui me reste de l'agence de Hutte. La seule trace de mon passage dans ces trois pièces d'un ancien appartement dont les fenêtres donnaient sur une cour. Je n'avais guère plus de 20 ans. Le bureau de Hutte occupait la pièce du fond avec l'armoire aux archives. Pourquoi ce dossier plutôt qu'un autre? À cause des blancs, sans doute. Et puis, il ne se trouvait pas dans l'armoire aux archives, mais il demeurait là, abandonné, sur le bureau de Hutte. Une affaire, comme il disait, qui n'avait pas encore été résolue, le serait-elle jamais. La première dont il m'avait parlé le soir, où il m'avait engagé à l'essai, selon son expression. Et quelques mois plus tard, un autre soir, à la même heure, quand j'avais renoncé à ce travail et quitté définitivement l'agence, j'avais glissé dans ma serviette, à l'insu de Hutte, et après lui avoir fait mes adieux, l'affiche dans sa chemise bleu ciel qui traînait sur son bureau, en souvenir.
La première mission que m'avait confiée Hutte était en rapport avec cette fiche. Je devais demander à la concierge d'un immeuble du 15e arrondissement si elle n'avait pas de nouvelles d'une certaine Noël Lefebvre, une personne qui posait à Hutte un double problème. Non seulement elle avait disparu d'un jour à l'autre, mais on n'était même pas sûr de sa véritable identité. Après la loge de la concierge, Hutte m'avait chargé de passer dans un bureau des PTT, muni d'une carte qu'il m'avait donnée. Sur celle-ci figurait le nom de Noël Lefebvre, son adresse et sa photo, et elle servait à retirer du courrier au guichet de la poste restante. La dénommée Noël Lefebvre l'avait oubliée à son domicile. Et puis, je devais me rendre dans un café pour savoir si on y avait vu Noël Lefebvre cet an dernier. M'asseoir à une table et y demeurer jusqu'à la fin de l'après-midi, au cas où Noël Lefebvre ferait son apparition. Tout cela dans le même quartier et la même journée.
C'était la première page du tout dernier roman de Patrick Modiano, Encre sympathique, qui vient de sortir dans la collection Blanche de Gallimard et lu par les deux liseuses, Lolila Siour et Samir Bouadi.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
On se retrouve demain à la même heure. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Demain, je recevrai Nicolas de Crécy.